genèveactive.ch.
Serge Martin, vous mettez en scène un Rabelais qui se déroule autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc avec des déplacements du public et des comédiens, un repas à partager. Enfin, c'est la fête durant 6 heures. Quel est l'enjeu d'organiser un spectacle aussi important ?
D'abord, c'est de monter l'œuvre en entier. Donc, il y a quand même ces 5 livres. Et ça représente beaucoup, enfin il y a plus de 30 000 mots chez Rabelais, donc c'est énorme, il n'y a pas un écrivain qui ait autant de vocabulaire. Mais c'est une grande épopée, c'est une fête du théâtre, et Rabelais, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, ça fait même plus de 10 ans. Alors l'adaptation a été écrite il y a longtemps, puis remaniée aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai redécouvert le texte que j'avais entre les mains, je me suis rendu compte de l'actualité, quoi, de beaucoup de passages que peut-être je ne voyais pas à l'époque. C'était le troisième spectacle d'un triptyque que je voulais faire au Pont Butin. J'ai fait La Tempête de Shakespeare, Le Quichotte de Cervantes, et le troisième c'était Rabelais. Malheureusement, je travaillais avec Guy Touraille et Fred Pellier déjà à l'époque. Je leur avais demandé de travailler avec moi. Et Guy est décédé et j'ai mis le projet au panier. Et puis à l'occasion de la parfumerie, enfin, c'est-à-dire du fait que la parfumerie va disparaître, j'ai proposé aux parfumeurs de travailler tous ensemble. Il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui le fasse, évidemment. Et Rabelais est arrivé comme pour le côté festif, justement, parce que c'est vraiment une fête de théâtre dans laquelle la première partie du spectacle va correspondre complètement. Ça sera Carnaval. Donc Carnaval, c'est très bien avec Rabelais. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Rabelais qui l'impose, les valeurs à renverser, quoi. Voilà, parce qu'il y a une dualité chez Rabelais constante, il donne jamais de solution, il donne toujours deux faces. Et dans le carnaval, on a ça, comme le masque, si vous voulez.
Un carnaval qui invite aussi le public à partager un repas.
Oui, tout à fait. Alors, dans cette première partie, on est comme dans la rue, dans les extérieurs. Bon, on va rentrer dans le grand café de la parfumerie. Les gens pourront, pendant une heure et demie, être assis vraiment confortablement, puis repartir dans la rue. Et donc, le théâtre est à vue. Et c'est la moindre des choses avec Rabelais que de manger et de boire. Bien sûr, chez lui, ça veut dire quête de savoir. Boire, c'est savoir. C'est boire de soif, c'est avoir soif de connaître, quoi. Mais évidemment, il y aura des verrées, il y aura dans les pauses qui ne sont pas vraiment des pauses, mais qui se passent pendant des moments de foire un peu, où il y a beaucoup de choses en même temps. Ce n'est pas le récit. Puis le récit reprend. Et puis il y aura un repas à la fin de cette première partie, un repas, et tout ça y compris dans le billet d'entrée, hein, c'est-à-dire les gens payent pour la représentation, le programme, les verrées, le repas, boisson comprise, voilà.
Le jeu se déroule parmi les spectateurs, les comédiens vont parler au public, les techniciens sont aussi parmi eux. Est-ce que vous avez voulu éliminer la notion de plateau, la notion de scène ?
Ben, ça correspond à la rue, tout simplement, et en effet, le théâtre sera à vue. On verra tout, on verra les changements de costumes de temps en temps, pas tous, mais on verra les techniciens pousser les plateaux roulants, enfin les scènes roulantes, bon, des choses comme ça. On verra les trucages, c'est-à-dire il n'y en aura pas en fait, voilà. Et tout ça c'est un partage direct avec le public, nous sommes parmi le public. Par contre, après le repas, la deuxième partie arrive et là on est dans la salle, c'est l'inverse. Les distances sont abolies, les gens vont faire un voyage dans le bateau de Pantagruel. Il y a vraiment un bateau qui va être installé dans la salle de théâtre. Et là, tout se fait par illusion théâtrale. Lumière, son, évidemment, enfin, tout ce qui donne des sensations, quoi. Tout par l'illusion. Le contraire de la première partie, l'inverse, l'autre côté de la carte.
Vous l'avez dit, chez Rabelais, on boit, on mange, on s'amuse. Est-ce que c'est une forme qui vous a amené à travailler différemment la prononciation, les mouvements du corps pour essayer d'exprimer la joie, la fête ?
C'est-à-dire que le texte implique ça. C'est une verve. En plus, il invente des mots. C'est un texte à entendre, quoi, à dire pour nous, pas à lire. Vous savez, Rabelais est illisible dans sa langue, l'ancien français, mais même dans les traductions modernes, parce qu'à chaque page, il faut une page d'explication. Donc moi, évidemment, dans l'adaptation, j'ai enlevé les références qu'on ne comprend pas aujourd'hui, j'ai simplifié, mais en essayant de garder la langue de Rabelais, c'est ça l'essentiel, et parce que le spectateur doit comprendre dans l'instant. On ne peut pas lui demander d'avoir un dictionnaire dans la poche. Donc il doit comprendre, il doit saisir le jeu, évidemment. De toute façon, Rabelais est très théâtral. Je ne fais que répéter les grands connaisseurs de Rabelais. Hein. C'est très théâtral, le jeu. Ça favorise la compréhension, le sens. Mais c'est une langue vraiment dans la bouche, quoi. Et là, il y a un travail, en effet, sur la sonorité. Ça a une qualité exceptionnelle, c'est que ça mélange les formes populaires, grotesques, avec une langue savante, parce que c'est un savant. Il connaît vraiment... D'abord, il étudie d'autres langues, que pas seulement les anciens grecs et latins. Et puis, il connaît les techniques, il connaît tout ce qui se fait. Et il y a très peu de gens qui connaissent ces choses-là, parce qu'à l'époque, tout le monde est ignorant, à part les clercs et l'Église, quoi. Et les nobles. Et donc, il fait en fait un combat contre l'ignorance. Et d'ailleurs, il réussit, puisque la langue française est en train de se former à cette époque-là. Et il y a plus de 600 mots que Rabelais a inventés qui sont restés aujourd'hui dans la langue. Mais on ne le sait pas. Plus toutes les expressions, il y en a de nombreuses. Et donc, c'est aussi une façon de ramener Rabelais quoi, aujourd'hui, parce qu'on le parle encore sans le savoir. Mais par contre, sa langue, à lui, je ne parle plus du vocabulaire, mais la manière dont il écrit, avec une joie. Oui, il s'amuse avec les mots aussi. Ça, c'est un travail en bouche pour les comédiens, à la fois la dualité et puis cette formidable matière quoi, qu'est sa langue. Voilà.
Les connaisseurs de Rabelais parlent toujours de lui comme d'un homme qui ne déparerait pas actuellement à notre époque. Quelle similitude, quel parallèle vous pouvez relever avec notre époque actuelle ?
Ben, les thèmes, en tout cas, bon, par exemple, je sais pas, comme ça, les foules fanatiques ou les foules moutonnières, ça y est. C'est sur l'éducation. Il est très en avance. L'éducation, pour lui, c'est l'expérience de la personne. Et faire expérience de tout, quoi. Ça n'est pas seulement livresque, donc. À l'inverse de la Sorbonne, à l'époque, qui interdira tous ses livres, hein, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, parce que c'est un subversif. En plus, par rapport à l'époque... Sa soif de savoir, c'est vraiment un pied de nez, même au créateur. C'était un moine au départ, après ça devient un moine défroqué, ça devient un médecin, bon, bien sûr, mais il s'attaque énormément à ces structures de l'Église, de l'État, bon, enfin c'est pas encore l'État, mais du roi. Il dit, ce monde pense déjà prêter à ceux qui ne sont pas encore nés. On a l'impression de quelqu'un qui parle pour demain ou après-demain, quoi. Il parle des emprunts, hein, et nous sommes tous là-dedans, enfin, pas moi, mais certainement beaucoup d'entre nous, coincés par l'argent. Toutes ces familles qui ont emprunté, puis qui sont maintenant, ils ne peuvent plus rembourser, enfin bon, tous ces problèmes. Alors là, parce que c'est quand même le début du capitalisme, c'est le début des gens salariés, des grandes entreprises, hein, donc des salariés dans les grandes entreprises, c'est le début des grands voyages. Le capitalisme naît à ce moment-là. On vient de découvrir les Antilles. Bon, enfin, les Indes pour Christophe, mais c'est les Antilles. On est en train de s'émanciper comme ça. Alors, il n'y a pas que Rabelais qui participe à cette émancipation de la langue, le français, qui va devenir la langue officielle, quoi, celle du roi, finalement. Calvin aussi, parce que les protestants de l'époque, ceux qui vont devenir les protestants, ils font comme lui, en fait. Ils font comme Rabelais. Ils s'attaquent à l'Église aussi. Donc, ils remanient le vocabulaire. Parce qu'ils ont... Ces gens-là ont très bien compris... Je parle de Calvin et de Rabelais, pas de tout le monde, mais ont très bien compris que la langue était un pouvoir et ils la modifient. Ils l'écrivent autrement, voilà. Alors ça, c'est un acte très important. D'ailleurs, ça continuera tout le temps, cette histoire de la langue. Nous sommes contraints par la langue, nous ne savons pas que nous sommes contraints par la langue et il faut la développer, il faut s'en échapper, enfin, etc. C'est ce que dit Dario Fo. Le patron connaît 10 000 mots, l'ouvrier 1 000. Voilà. On a tout dit quand on a dit ça, il a très bien vu. Moi, j'adore cette époque de passage à la Renaissance et la Renaissance, quoi. Parce que c'est vraiment une transformation d'un monde très vieux dans lequel, justement, par exemple, la langue... était une langue courtoise, langage courtois, donc où il y a des nobles, des preux chevaliers, des nobles dames et tout ça, qui ne mangent pas et qui ne boivent pas, sauf des filtres d'amour, quoi. Lui, il arrive et puis on mange et on boit et on casse tout et on veut connaître. Parce que manger, c'est avaler les choses, c'est vraiment tout déguster, tout avaler, tout savoir. Alors lui, il va jusqu'au bout. Il n'a pas peur, par exemple, de faire changer les dimensions. Son géant, de temps en temps, s'assoit à la table avec tout le monde. Il a la même dimension. De temps en temps, en tant que narrateur, il rentre dans la bouche du géant. Enfin, les dimensions changent. Enfin, parce qu'il relie une volonté d'exister à un imaginaire. C'est-à-dire, vouloir, c'est se vouloir. C'est ça qu'il défend. Et l'imaginaire, elle fait partie de son écriture. Et donc, il invente des personnages assez extraordinaires et qui, évidemment, pour l'époque, avec tous leur double, quelque part, quoi. Et qui, aujourd'hui, ont encore une résonance très importante.
Et quel est le rôle des couples dans l'écriture, dans le monde de Rabelais? Je pense, bien sûr, à Pantagruel, Panurge, et puis Gargantua et Frère Jean.
C'est un peu les mêmes couples, c'est-à-dire c'est un roi qui est assez intelligent pour avoir un ami ou quelqu'un à côté de lui, qui considère amicalement, en tout cas. Je parle pour Panurge, au début, c'est un peu le bouffon, quoi, hein, comme je disais, le fou. Parce qu'il fait rire, tout simplement. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arriver à mettre en cage, enfin, même à asseoir gentiment à côté de soi. Donc, ce sont comme des fous. Frère Jean a un petit peu la même fonction. C'est un moine aussi, mais alors sanguinaire. Donc, vous voyez, c'est contradictoire complètement. Enfin, c'est un avaleur. Avec un tempérament, quand il se met en colère, voilà, il devient sanguinaire, mais contre les ennemis, pas n'importe qui, c'est pas un assassin. Mais puisqu'il y a deux guerres, dans chaque livre il y a une guerre, contre un envahisseur, il faut quand même dire que c'est pas eux qui déclenchent la guerre, ils sont envahis, donc ils se défendent et gagnent. Bon voilà, et bien ils ont la même fonction, c'est un peu ces couples comme Quichotte Sancho, sans que Sancho soit un fou forcément de Quichotte, mais quand même c'est celui qui a les pieds sur terre. Voilà, lui, il voit des moulins et pas des géants. Et Quichotte voit des géants. Alors après, Quichotte dit, mais qui des deux a raison? Voilà. Et c'est un peu ça. Ces couples sont très importants. On a ça avec Don Juan Sganarelle. On a ça, enfin, voilà. C'est toute l'histoire des deux facettes, quoi. Et ce qu'il y a de bien dans ces géants, dans ces héros que sont Gargantua et Pantagruel, c'est que ce sont c'est pas les mêmes. Par exemple, dans la guerre que pratique Gargantua pour se défendre, il gagne et il poursuit pas les poursuivants. Il relâche tout le monde. Voilà. Il change juste l'ennemi, puis Crocole, c'est son fils, et non pas lui qui va reprendre les rênes. Voilà. Et il veut l'éduquer, simplement. C'est tout. Et les officiers, ils vont écrire à l'imprimerie. Voilà. Donc, alors que Pantagruel, lui, il gagne la bataille, et il les poursuit, et il envahit le pays de l'envahisseur. Donc, c'est toujours pareil avec Rabelais, il donne deux versions. À nous de choisir, à nous de voir. On se fait son idée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont clairvoyants. Ce sont des personnages. Déjà, pour accepter Panurge, il faut que Pantagruel soit intelligent et clairvoyant. Et ils ont autant de facultés de clairvoyance que leur compagne, quoi, que leur compagnon. Voilà. C'est ça l'intérêt de ces couples.
Avec ce Rabelais, il n'y a pas simplement l'auteur qui est dans notre époque, il y a aussi cette volonté de parler d'une culture populaire qui soit aussi divertissante. Et ce Rabelais-là s'y inscrit aussi parfaitement.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est vraiment une fête populaire. Bien sûr, il y a un récit, il y a des événements. Chez Rabelais, il y a beaucoup d'événements, d'images. Enfin, c'est fantastique de travailler là-dessus. On n'a pas besoin de se creuser la tête pour se dire comment je fais, hein. Il faut simplement endosser ces choses-là. Et là, on a des comédiens qui peuvent le faire tout à fait bien. On a une distribution superbe. C'est une fête. On peut dire que la réunion... C'est pas comme aller au spectacle, s'asseoir sur le gradin, et puis, ou même debout. Enfin, bon, il y a différentes formes. Mais enfin, c'est pas la représentation qui a un temps. On sait bien, c'est élastique, ça dépend des spectacles. Mais quand même, on va voir un spectacle, et puis on peut prévoir de manger après, je sais pas. Enfin, là, c'est un tout, donc on va passer un long moment ensemble. Il y a un contact cordial avec les spectateurs, d'abord parce que ils ne débourseront plus rien une fois qu'ils seront sur le site, non, juste pour dire. Mais quand ils rentrent, on leur offre à boire. Voilà, ça commence comme ça. Et puis, ce voyage en bateau est quand même assez extraordinaire. Là, j'ai vu le bateau en construction aux ateliers du Lignon. C'est très impressionnant. Et c'est ça. La fête, elle est dans le repas aussi. Partager un repas, c'est quand même convivial. Donc, ça reste... Alors, vous me direz, c'est pas le spectacle, ça. Bien sûr que non, mais ça fait partie du contexte, comme ces moments comme le prologue et deux intermèdes qui sont la foire, avec des stands, il y a des scénettes un peu partout. Les gens peuvent aller où ils veulent, ils boivent, ils se déplacent, puis après on reprend le récit, on focalise et on continue. Et donc c'est un voyage qu'on fait ensemble. C'était dans l'idée du pont butin, comme j'avais fait, quoi, de transporter, que les gens se transportent ailleurs. Alors là, avec le pont butin, on avait physiquement un déplacement en bateau, donc c'était vraiment ça. Mais c'est la même chose, même si là, c'est à côté, hein, près de Larve. C'est se transporter ailleurs. Voilà, on part ensemble, c'est comique à bien des moments, quoi. Donc on peut dire que la fête sans rire, ça serait un peu... D'ailleurs, bon, c'est lui qui le dit, enfin c'est Aristote qui l'a dit avant lui, mais rire est le propre de l'homme, il le reprend... Et donc, c'est bien pour ça qu'on est ensemble, quoi. C'est pour passer un moment le plus merveilleux possible, et puis le plus sympathique, on va dire, possible. Et puis après, là-dedans, bah, il se dit des choses, quoi, évidemment. Et avec Carnaval, l'histoire de... On renverse les valeurs, alors il se dit des choses, des fois, très importantes.
Merci, Serge Martin.
Genève Active.ch